Radio Kapi.
Le journal, Jacques-Yves Molima.
Troisième round du processus pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les travaux proprement dits débutent ce mercredi. Et déjà, le mandataire du chef de l'État, Serge Tshibangu, appelle toutes les parties au respect du cessez-le-feu sur terrain pour éviter de s'auto-exclure de pourparlers. Et puis, Expo Béton, 6e édition, s'ouvre ce mercredi ici à Kinshasa. Ce salon de réflexion sur la construction et les infrastructures en République démocratique du Congo devrait se pencher sur la reconstruction de la ville de Kinshasa à l'horizon 2036. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Serge Tshibangu, mandataire du chef de l'État au processus de Nairobi. Il s'exprime sur les attentes de la partie congolaise de ce pourparler. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Les travaux proprement dits du troisième round du processus pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo débutent ce mercredi à Nairobi, ce après l'arrivée de toutes les délégations dans la capitale kényane. La veille, le mandataire spécial du chef de l'État pour le processus de Nairobi a appelé tous les groupes armés présents à Nairobi au respect du cessez-le-feu sur terrain pour éviter de s'auto-exclure des pourparlers. Les précisions avec notre envoyé spécial à Nairobi, Martial Papimukeba.
Les travaux de ce matin seront dirigés par l'ancien président Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour le processus de paix dans l'Est de la RDC. Toutes les délégations des groupes armés, de la société civile, des associations des femmes et des communautés du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri et Tanganyika affichent complet au troisième round de ces pourparlers. La veille du début des travaux proprement dites s'adressa aux groupes armés présents à Nairobi. Le mandataire spécial du chef de l'État pour le processus de Nairobi a appelé au respect du cessez-le-feu sur terrain. Selon le professeur Serge Tshibangu, c'est pour éviter de s'auto-exclure du processus.
Ces engagements que nous avons pris restent d'actualité. Qu'on n'entende aucun coup de feu pendant que vous êtes ici, aucun coup de feu. Au nom de l'autodéfense, au nom de repousser des attaques, qu'on n'entende aucun coup de feu. Dès qu'il y a le coup de feu qui partira, on le saura. Et malheureusement, vous serez obligé de vous séparer de nous.
Au moins 47 groupes armés prennent part au troisième round du processus pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Depuis Nairobi, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Pendant ces temps, sauvons la RDC en danger, c'est le message du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID à la population congolaise ce mardi 29 novembre ici à Kinshasa. Selon Martin Fayulu, président de ce parti, l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda est une question qui devrait être traitée avec diligence par la communauté internationale. Il appelle les populations congolaises à se mobiliser ce 4 décembre pour soutenir les FRDC au front. Martin Fayulu dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
L'agression de la RDC par les Rwanda et l'Ouganda est un problème sérieux que les Nations Unies, l'Union africaine et tous les partenaires de la RDC et puis de paix et de justice devraient traiter avec diligence pour arrêter les velléités hégémoniques de M. Kagame et mettre fin aux souffrances énormes qu'endurent les populations congolaises affectées directement par cette guerre injuste. Voilà pourquoi je demande spécialement aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de se rappeler de plus de 10 millions de morts congolais depuis 1993, de 6 millions de déplacés internes, de 27 millions de Congolais qui ont besoin d'une assistance humanitaire et de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition. Votre conscience et votre humanité doivent être interpellés.
Autre nouvelle, un regain d'insécurité s'observe dans la commune de Nzanza à Matadi, au Congo central. Le bourgmestre de cette municipalité affirme avoir enregistré 11 cas de différentes formes de vol à travers sa juridiction en 48 heures. Nour Lukombo attribue cet état des choses à l'obscurité dans laquelle est plongée la ville de Matadi, ainsi que d'autres coins de la province, à la suite d'une panne électrique survenue à 6 km de la centrale hydroélectrique d'Inga. Le point avec Nana Plurich-Mambo.
Selon le bourgmestre de la commune de Nzanza, depuis la nuit de samedi à celle d'hier mardi 29 novembre, un groupe de délinquants appelé communément Kuluna, armé de machettes, est entré par effraction dans 11 domiciles et a extorqué plusieurs personnes. Ces inciviques ont mené ces opérations dès 1h du matin à 3h, précisément dans les quartiers Kitomesa, Dibwansakala, Sakalansimba et à la Seli Lichangu. Ils ont blessé grièvement 2 personnes et dans chacune des maisons visitées, ces hors-la-loi ont ravi les appareils électroménagers ainsi que plusieurs biens de valeur. En cette fin d'année, les effectifs des policiers étant réduits, le bourgmestre de la commune de Nzanza appelle ses administrés à soutenir les efforts de l'État pour sécuriser la ville. Nour Lukombo.
Notre problème éternel, c'est en rapport avec les effectifs de la police. Il fallait multiplier les patrouilles, mais la police ne peut pas être partout en même temps.
Hormis cela, les affrontements entre les groupes des gangs des quartiers Kapu et Kitomesa qui ont refait surface dans cette municipalité inquiètent aussi la population. Signalons que la commune de Nzanza Amatadi, qui est composée de 7 quartiers, ne dispose que de 4 sous-commissariats et 1 commissariat de la police, avec seulement 30 éléments opérationnels. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Et puis, stop à tout conflit à caractère tribal, aux violences dans la province du Kwilu et au phénomène Kuluna, principalement dans la ville de Bandundu. C'est l'essentiel du message du gouvernement provincial à sa population. C'est le secrétaire général de ce gouvernement, Maître Mouma Zéphirin, qui l'a lancé au cours d'un briefing organisé hier mardi dans la salle de réunion à la division provinciale du genre à Bandundu, à l'attention des professionnels des médias de cette ville. À l'occasion, ces derniers ont été sensibilisés sur la promotion de la paix et de la cohabitation pacifique dans la province. Les propos de Maître Mouma sont recueillis par Irène Mbouma.
Dans le cadre des activités planifiées par le gouvernement provincial, il était prévu des séances de briefing de leaders communautaires et de personnels de médias. Et là, nous venons de réaliser l'activité de briefing de personnels de médias. Et le message porte essentiellement sur 3 volets. Le premier volet, c'est que nous devons mettre fin au conflit à caractère tribal et nous devons mettre fin au phénomène Kuluna. Nous sensibilisons tout le monde pour que ce phénomène-là prenne fin. Le deuxième message, c'est que le gouvernement demande à ce que les personnes des médias sensibilisent la population sur la nécessité de redynamiser la cohésion nationale. Le Congo doit rester uni et indivisible. Le troisième message, c'est qu'on demande aux personnes des médias de lancer des messages sur la culture de la paix. Ils doivent amener le message vers tout le monde pour que la paix règne et chacun devra travailler pour que la paix demeure dans la province de Kwilu.
Le salon de réflexion sur la construction et les infrastructures en RDC, dénommé Expo Béton, ouvre les portes de sa 6e édition ce mercredi 30 novembre. Objectif de cette année, achever les réflexions entamées à la 5e édition sur le statut de Kinshasa comme province et pas seulement comme ville, et reprendre les réflexions de la reconstruction de la ville de Kinshasa à l'horizon 2036. De quoi sera-t-il concrètement question dans ces rendez-vous? Réponse du chargé de communication de Expo Béton, Philippe Katumba, au micro de Donna Madimba.
Pour cette édition, nous allons réfléchir sur la problématique relative donc 5 piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036. Pilier par pilier, décryptage d'une manière aussi approfondie pour que enfin cette fois-ci nous puissions proposer de résolutions aussi pratiques qui en fait qui devraient être exécutées à court terme. Le 5 piliers que nous aurons exploité, il y a par exemple le pilier sur le financement, parce que tout ce que nous aurons à préconiser comme politique visant à moderniser la ville de Kinshasa à l'horizon 2036 aura bel et bien besoin de financement pour sa matérialisation. D'où la question finance, comment accéder au financement pouvant permettre à ce que cette question puisse être traitée. Deuxièmement, l'autre pilier, le pilier du transport rapidement, vous savez que la mobilité dans la ville de Kinshasa pose énormément de problèmes. Comment décongestionner Kinshasa? Les embouteillages. Raison pour laquelle cette question aussi sera débattue.
Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Les activités économiques se relancent de nouveau au centre commercial de Fataki, dans le territoire de Djougou, en Ituri. Ce après une longue période d'insécurité qui a prévalu dans cette entité. Des marchands affluent de nouveau des différents coins pour écouler leurs produits ou s'approvisionner en d'autres. Selon les témoignages des habitants, c'est le fruit de la calmie observée depuis quelques mois dans la région. Mais d'autres personnes estiment que
Tant que les miliciens des différents groupes armés ne rendent pas leurs armes, il sera difficile d'espérer à une paix durable. C'est un reportage de Jean-Claude Loukidili.
Le marché de Fouata qui est devenu de nouveau fréquentable, marchands et marchandes viennent de différents villages, y compris ceux sous le contrôle des groupes armés. Il s'agit par exemple de Ngbatiba, Ala, Libi, Voua, Bandroma, Ame ou encore Bali. Ils viennent se ravitailler en produits de première nécessité. D'autres se rendent dans ces localités pour se ravitailler en produits vivriers. Aimé Kiki tient un débit de boisson et affirme que ses recettes journalières ont légèrement augmenté.
Auparavant, on ne vendait même pas des caisses, même pas une caisse, mais cette fois-ci, on atteint même des caisses, trois caisses.
Mais le retard que connaît le processus de désarmement des groupes armés est le défi majeur qui risque de fragiliser cette accalmie, affirme cet habitant. Il nous déclare cependant que les gens se divertissent parfois jusqu'à des heures tardives.
Bon, l'ambiance est vraiment totale. C'est tous les week-ends, on prend un peu de l'air, on reste ici jusqu'à 23h, 1h, et puis bon, chacun va dormir là où il est logé. À Fouata, il y a la sécurité. Dès que les miliciens vont quitter la bourse, je crois que c'est à ce moment-là qu'on va dire que la sécurité est à 100%.
La plupart des personnes interrogées souhaitent que cette paix se généralise en vue de permettre à des milliers de déplacés de regagner leur village pour vaquer à leurs occupations, comme par le passé. Bounia, Jean-Claude Lekidile, Radio Capi.
Et puis, le Bureau des Affaires africaines du Département d'État des États-Unis d'Amérique a annoncé officiellement la tenue du 13 au 15 décembre prochain du sommet États-Unis-Afrique. Le président américain Joe Biden invite donc 49 chefs d'État ainsi que les responsables de l'Union africaine pour un sommet de 3 jours à Washington. C'était lors d'une conférence de presse devant plusieurs médias africains hier mardi. Le programme des activités de 3 jours du sommet a été dévoilé. Cynthia Bachizi nous en dit plus.
La dernière rencontre aux États-Unis d'une aussi grande envergure, c'était en 2014 lors de la présidence Obama. Le sommet de 2022 marque donc la reprise de cette grande messe qui réunit les dirigeants africains ainsi que le président américain et les responsables de son administration. D'après le département d'État américain, l'organisation de ce sommet est une preuve de reconnaissance de la part des États-Unis que le continent africain est un acteur majeur et incontournable qui façonne non seulement le présent mais aussi le futur du monde. Mais il faudra pour y arriver s'activer à consolider un climat de paix et de sécurité sur le continent. Le premier jour du sommet sera ainsi consacré notamment à l'organisation d'un forum sur la paix et la sécurité. Le ministre américain de la Défense réunira autour de lui plusieurs leaders africains pour échanger sur cette problématique a annoncé le département d'État américain. Au deuxième jour, l'accent sera mis sur le volet économique avec l'organisation d'un business forum entre les États-Unis et l'Afrique. Le troisième jour est appelé Leader Day, entendez le jour des leaders. Le président américain Joe Biden rencontrera alors les chefs d'État africains ainsi que les chefs des délégations présentes.
Autre nouvelle, l'UDPS Tshisekedi Fédération Urbaine de Kalemi critique négativement la gestion de la gouverneure du Tanganyika et lui retire définitivement son soutien. Ce parti politique l'a fait savoir lundi dernier dans un mémorandum adressé au chef de l'État. En réaction, l'Union sacrée du Tanganyika prend la défense de la gouverneure. Les détails avec Paulin Munanga.
Dans ce mémorandum de ce lundi adressé au chef de l'État Félix Tshisekedi, les membres et combattants de l'UDPS ont fait un état des lieux de la situation politique de la province du Tanganyika. D'après eux, la gouverneure Julie Ngungwa ne parvient pas à bien gérer la province du Tanganyika et promettent de ne plus la soutenir.
Aucune activité de grande envergure n'a été menée depuis son arrivée à la tête de la province du Tanganyika pour la pacification pendant que la population vit dans une sécurité totale qui a entraîné une rareté déplorable des produits de première nécessité sur les marchés et plusieurs cas d'insécurité sont enregistrés du jour au jour.
En réaction, l'Union sacrée dans le Tanganyika défend la gouverneure et rappelle que l'UDPS est le parti politique qui est très privilégié dans la distribution des postes dans la province.
L'Union sacrée de la nation Tanganyika prend acte de leur déclaration de ne plus soutenir Madame le gouverneur de la province du Tanganyika. Demandons à tous les membres de l'UDPS Tanganyika nommés par Madame le gouverneur Julie Ngungu Mayuma qui se sentent insatisfaits de démissionner sans condition.
Aucune réaction jusqu'à présent de la gouverneure du Tanganyika à ce sujet. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et puis cette bonne nouvelle pour toute l'Afrique, le Sénégal Sénégal, première équipe africaine qualifiée, disputera les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football pour la deuxième fois de son histoire après 2002, le dimanche 4 décembre prochain à Alcor, face au premier du groupe B. Les Sénégalais ont arraché leur qualification en battant les Équatoriens 2-1 ce 29 novembre à Al Rayyan. Ils finissent ainsi deuxième du groupe A derrière les Néerlandais vainqueurs 2-0 du Qatar.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, le procès des accusés de l'attentat du Grand Bassam s'ouvre ce mercredi 30 novembre au tribunal criminel d'Abidjan. Les faits remontent au 13 mars 2016, lorsque 19 personnes et 3 militaires ont perdu la vie au cours d'une fusillade survenue dans cette station balnéaire située à une quarantaine de kilomètres à l'est de la capitale ivoirienne. À l'époque, cet attentat avait été revendiqué par les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI. Et puis, en attentat de Bruxelles, le plus grand procès de l'histoire belge s'ouvre ce mercredi. 10 hommes sont jugés dans ce procès hors normes. Ils sont accusés d'avoir participé aux attentats djihadistes de 2016 qui avaient fait 32 morts et des centaines de blessés à l'aéroport de Bruxelles et dans une station de métro.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est l'envoyé spécial du chef de l'État pour le processus de Nairobi pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Le professeur Serge Tshibangu s'exprime sur les attentes de la partie congolaise pour le troisième round de ce processus dont les travaux proprement dits débutent ce mercredi au Safari Park Hotel de Nairobi, vous le savez. Le professeur Serge Tshibangu s'entretient ici avec Martial Papi Mukeba. Suivez.
Professeur Serge Tshibangu, bonjour.
Bonjour Monsieur Mukeba.
Quelles sont les attentes de la partie congolaise pour cette troisième phase des consultations de Nairobi?
Sur base du discours d'hier de son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État a encore une fois lancé un appel à nos frères et sœurs qui avaient décidé de prendre les armes dans le passé, pour une raison ou pour une autre, à s'inscrire pleinement dans le processus de paix, notamment déposer les armes et aussi discuter comment ce désarmement va se faire concrètement, désarmement et puis démobilisation.
C'est-à-dire il n'y aura plus d'autres consultations pendant cette troisième phase.
Bon, disons que pour le moment nous sommes focalisés à cette troisième phase, notamment à Nairobi 3, parce que nous avons cheminé d'une certaine manière. Nairobi 1, ici à Nairobi, c'était notamment de passer le message aux groupes armés. Il y a un groupe qui était ici qui avait pu venir dans le temps, à peu près 23, mais les autres n'avaient pas pu venir pour des raisons logistiques. Et Nairobi 2, c'était donc pour nous d'aller vers eux, leur passer le message du chef de l'État, la main tendue du chef de l'État, qui leur demandait de déposer les armes et s'inscrire dans le chemin de la paix et de la stabilisation. Nairobi 3 est donc arrivé pour que nous leur disions que le PDDRCS est prêt. Vous avez vu encore une fois que le chef de l'État a pu structurer le PDDRCS avec la nomination de nouveaux coordonnateurs provinciaux qui vont donc aider ces ex-combattants à cheminer jusqu'à ce qu'ils arrivent va réintégrer donc la communauté. Ici, il s'agit donc de faire un travail concret sur le comment donc intégrer ces ex-combattants dans ce processus.
Vous parlez là d'une feuille de route qui doit sortir de ces consultations ou de cette troisième phase des consultations de Nairobi.
Oui, c'est une sorte de feuille de route, même si la feuille de route globale, elle existe déjà. Nous savons exactement quelles sont les étapes à franchir pour arriver à matérialiser ce processus de Nairobi, mais particulièrement par rapport à ces sessions de travail que nous aurons ici. Ici, c'est effectivement une sorte de cheminement ou d'exécution de cette feuille de route qui a déjà été approuvée par le chef de l'État lui-même ainsi que ses pairs de la communauté d'Afrique de l'Est.
Est-ce qu'il y a des risques d'arriver à Nairobi 4?
Je préfère ne pas me prononcer, mais ce qui est vrai, c'est que nous préférons que tout soit terminé durant ce processus de Nairobi 3 parce que Nairobi 4 voudra dire continuer à exposer nos populations, nos communautés à la souffrance causée par ces groupes armés et le reste. Donc nous préférons, au nom de nos populations qui n'ont que trop souffert, arrêter tout aujourd'hui et comme ça, quand chacun rentre dans ses communautés, ce n'est que pour l'exécution de ceux qui sont arrêtés ici.
Vous venez de lancer un appel à tous les groupes armés qui participent à cette troisième phase du processus de Nairobi de ne pas mener des attaques pendant les consultations.
C'est totalement confirmé. D'ailleurs, ce n'est pas seulement pendant les séances d'aujourd'hui. C'est depuis la première rencontre de Nairobi 3 le 23 avril que le mot d'ordre leur avait été donné. Cessation des hostilités complètes, donc cesser le feu, mais aussi autoriser ou laisser les convois humanitaires accéder dans les régions qui sont sous leur contrôle. Alors, nous sommes contents que pratiquement 90% de ces groupes armés, après 6 ou 7 mois de cet appel, ils ont maintenu ce cessez-le-feu et n'ont pas reçu de plainte de la part des humanitaires qu'un convoi ou quelques personnels humanitaires se seraient fait attaquer pendant ces 6 ou 7 derniers mois.
Et si cela arrivait, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, c'est exactement ce qu'on leur a dit depuis le début, c'est que malheureusement, ça voudra dire qu'ils ont craché sur le processus politique ou l'option politique du processus de Nairobi, et nous les considérons comme des récalcitrants, comme des résistants à la main tendue du chef de l'État, et malheureusement ils seront traités comme des forces négatives. Ils se seront auto-exclus du processus.
Certaines personnes s'inquiètent à Disa que ça, les M23 au processus de Nairobi, il sera peut-être très difficile de rétablir la paix dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. Quelle est votre réaction?
Le processus de Nairobi a été créé avec deux options, politique et militaire. Alors, l'option politique, il y avait des critères par rapport à ça. Tous les groupes armés, y compris le M23, étaient invités. Ils étaient tous à la table avec nous. Mais il y avait une ligne de conduite qu'il fallait respecter. Depuis, donc, le 23 avril. Cette ligne de conduite, c'était le cessez-le-feu. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, ne pas s'attaquer aux convois humanitaires.
Professeur Serge Tshibangu, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Dieudonné Nyangassa. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination et la supervision d'Alain Irung Mushinj. Merci également à vous pour votre particulière attention.